France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, un devin était très célèbre, très impressionnant. Un devin mythique qui a vécu très longtemps. Ses oracles ont marqué fortement l'histoire de grands héros sur plusieurs générations. Héraclès, Œdipe, Ulysse. Il était comme éternel. Après sa mort, la déesse des enfers, Perséphone, lui a fait une faveur exceptionnelle. Elle lui a laissé la jouissance de son esprit, alors que dans son royaume, les autres morts ne sont plus que des fantômes vides. Ce devin prophétisait encore dans l'au-delà, nous dit Homère.
Devin aveugle, mais ses pensées sont encore fermes, car même mort, Perséphone lui a laissé, à lui seul, la sagesse de son esprit. Les autres ne sont qu'un vol d'ombre.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Ce devin s'appelait Tirésias. Il a eu une histoire incroyable qui ne ressemble à aucune autre. Mais en vivant des situations surprenantes, uniques, il nous dit beaucoup sur ce que peut être la vie d'un devin. Tirésias est passé par des métamorphoses qu'il n'a pas toujours voulu. Ce sont elles qui lui ont donné sa capacité de divination. Tirésias montre à quel point il faut être étrange, bizarre, pour être en rapport avec les dieux. La bizarrerie principale de Tirésias est qu'au cours de sa vie, il a été tantôt homme, tantôt femme. Il a été les deux, jamais en même temps, mais par phases successives. Normalement, les deux conditions, masculine et féminine, étaient bien séparées, avec des fonctions distinctes pour chaque genre. Mais être devin, c'est aller au-delà des frontières, c'est vivre hors limite. Des hommes devins pouvaient avoir en eux une bonne part de féminité. Tirésias a eu deux corps, un masculin et un féminin. Guillaume Apollinaire, le poète enchanteur du pont Mirabeau et de la chanson du mal-aimé, a pendant la Première Guerre mondiale écrit le livret d'un opéra, Les mamelles de Tirésias. Où sont les mamelles de Tirésias ? Est le titre de l'épisode d'aujourd'hui.
Dis-moi, Tirésias, dis-moi, qu'est-ce qui nous menace ?
Quelqu'un et quelque chose. Vois un danger, oui, un péril grave et nouveau, qui vient de très loin.
Qui veut nous attaquer ? Qui oserait lever ses armes contre les Grecs ?
Les forces du mal.
Les Grecs avaient entendu parler de devins qui étaient à la fois hommes et femmes, des androgynes. Ce n'est pas une histoire grecque, mais elle est racontée par un Grec, Hérodote, le grand historien enquêteur du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui s'est tellement intéressé aux civilisations qui entouraient la Grèce. L'histoire commence en Palestine. Au 7e siècle avant notre ère, des guerriers venus du nord, des Scythes, S-C-Y-T-H-E-S, guerriers nomades, descendent en force vers l'Égypte, qui veulent attaquer. Le pharaon les arrête. Les Scythes se replient sur la ville d'Ascalon, qui existe toujours. Elle est située sur la côte entre Gaza et Tel Aviv. Dans cette ville, il y a un temple très célèbre de la déesse Aphrodite. On dit même que c'est son temple le plus ancien que ceux de Chypre ou de Cythère. Le gros de l'armée scythe épargne ce temple. Mais un groupe s'y arrête et le met à sac. La déesse Aphrodite est furieuse. Elle se venge. Elle inflige à ses hommes ce qu'Hérodote appelle une maladie féminine. Cette maladie s'est perpétuée pendant des générations.
Ceux des Scythes qui pillèrent le temple d'Ascalon et leurs descendants à perpétuité furent frappés par la déesse d'une maladie de femme. Le fait est que les Scythes expliquent leur maladie de cette façon et que les voyageurs qui se rendent en Scythie peuvent constater par eux-mêmes leur état. Les Scythes les appellent Énarées, Énarées.
L'expression « maladie féminine » ou « maladie de femme » n'est pas claire, mais elle veut sans doute dire que ces cavaliers farouches ont perdu leur virilité. Ils ont offensé Aphrodite, la déesse de l'amour, et ils perdent leurs compétences amoureuses masculines. Ils sont, d'une manière ou d'une autre, féminisés. Le médecin Hippocrate, contemporain d'Hérodote l'historien, s'est informé sur cette maladie. Il raconte que de son temps, les Scythes concernés vivent comme des eunuques, c'est-à-dire sont impuissants. Ils adoptent un mode de vie féminin.
Ils revêtent une robe de femme et s'accusent de manque de virilité. Ils vivent comme les femmes et se mêlent à leurs activités. Ils se livrent aux travaux féminins et ont une voix semblable à celle des femmes.
Mais Hippocrate ajoute que cette vie féminine donnait aux gens de cette caste un prestige énorme. Ils étaient craints. Leur condition paradoxale était le signe d'une forme d'élection divine.
Les gens du pays, pour leur part, en attribuant la cause à une divinité, vénèrent ces hommes-là et se prosternent devant eux, chacun éprouvant des craintes, ne serait-ce que pour sa propre personne.
En bon médecin rationaliste, Hippocrate explique cet effacement des capacités viriles par une pratique trop assidue de l'équitation qui provoque à force une sorte de castration. Les Scythes eux-mêmes avaient évidemment une autre explication. Ces hommes atypiques, amoindris, marqués par un défaut qui les distinguait fortement des autres, avaient selon eux un rapport privilégié avec la divinité. Rapport négatif de brimade, Aphrodite étant en colère contre leurs ancêtres, et rapport positif. Ces êtres tronqués possédaient l'art d'être devins. Hérodote, dans son enquête, les appelle des androgynes, androgynoi, des hommes-femmes.
Les énarées et naréès, ces hommes-femmes, androgynoi, prétendent que le don divinatoire leur a été donné par Aphrodite. De fait, ils pratiquent la divination en se servant d'écorce de tilleul. Ils fendent en trois cette écorce, et c'est en entrelaçant les bandes sur leurs doigts et en défaisant l'entrelacement qu'ils rendent leurs oracles.
Le tilleul était un arbre lié à Aphrodite. La possession de caractère féminin était un plus, pas seulement une perte de virilité. Ces hommes étaient doubles et échappaient à la limite humaine habituelle, puisque d'habitude on est homme ou femme. Mieux valait en général être homme, mais la participation d'une manière ou d'une autre à une existence féminine pouvait être un gain. Cela donnait accès au divin et donc du pouvoir. Les hommes changeaient de statut et devenaient, comme le dit Marie Delcourt, helléniste passionnante et pionnière dans ses travaux sur le changement de sexe en Grèce et sur la bisexualité, des sortes de chamans. Cette histoire exotique pouvait fasciner les Grecs, car il y avait en Grèce un rapport essentiel entre féminité et divination. La première prophétesse, au sens de devin, était la déesse terre, Gaïa. Elle était à l'origine de presque toute chose, de tout ce qui naît, se déploie, de tout ce qui est soumis au temps. Elle connaissait la date et l'heure de la mort de chacun d'entre nous. La terre possédait en elle tout ce qui allait se produire, mais pas ouvertement. Elle avait en elle une part sombre de secret, une part caverneuse, où elle dissimulait ses réflexions et son savoir. Elle savait se replier sur elle-même dans l'obscurité de ses creux quand il fallait. À la fois, elle portait à la lumière, inépuisable, et elle cachait. À Delphes, bien avant le dieu Apollon, Gaïa, la déesse terre, prophétisait. Puis elle a transmis l'oracle à une autre divinité féminine, sa fille Thémis, déesse de l'ordre, de l'enchaînement régulier des choses dans le temps. Puis vint une sœur de Thémis, Phoïbé, la déesse de la lumière, de l'éclat, qui magnifie la révélation divine qu'est un oracle. La divination était donc d'abord féminine. Quand le dieu mâle, Zeus, a pris le pouvoir et a imposé sa loi, il a dû conquérir contre ses femmes déesses le sanctuaire de Delphes pour avoir sur terre un lieu où il pourrait, par des oracles, faire connaître ses volontés. Il chargea son fils Apollon de cette conquête. Apollon, pour prendre possession de Delphes, a dû se battre. Il a dû tuer un animal énorme, rampant, intimement lié à la terre, le serpent Pitroun. En le massacrant, Apollon s'est emparé de son pouvoir. Les serpents, ces animaux terriens proches de Gaïa, étaient fortement liés à la prophétie. Si Cassandre et son frère Hélénos ont acquis l'art d'être devins, c'est que juste après leur naissance, des serpents sont venus lécher leurs oreilles. Pour dire « serpent », les Grecs disposaient d'un mot qu'aimaient bien les poètes. Le mot « dracone », qui a donné notre dragon. Ce mot note le regard aigu, terrifiant, précis du serpent. Dracone, est en effet de la même famille que le verbe derkomai, qui signifie regarder avec insistance, intensément. Les serpents ont le regard pénétrant qui fait peur, comme les devins, qui percent les apparences et impressionnent par ce qu'ils révèlent. Tirésias, le grand devin mythique, va connaître lui aussi le lien entre divination, serpent, regard et féminité.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
J'ai senti les premiers symptômes, il y a 6 semaines environ. J'étais devenu un fantôme, tous mes amis vous le diront. Je n'avais plus le goût de rien, aucun goût sur la langue. Et moins loquace que mon chien, j'oubliais lentement ma langue. Un matin où je me traînais d'un atome à l'autre sans but, j'ai cru soudain qu'on me freinait, qu'on me ramenait au début. Entre la douche et la baignoire, guidé ou sous hypnose, j'ai laissé glisser mon peignoir et j'ai aperçu quelque chose. Les premiers émois, il y a 6 semaines environ, je n'avais jamais eu que moi, au creux de mon propre giron. Mais ce jour-là, couvert de sueur, de vapeur mélangée, dans mon reflet comme une sœur, j'ai vu combien j'avais changé. Bien sûr, ce corps était le mien, j'étais un homme, un mal, un vrai. Pourtant, à me regarder bien, j'ai compris ce qui m'arrivait. Les yeux brillants, la peau dorée, la nausée sous les seins, l'envie de rire et de pleurer, voilà, j'étais enceinte.
Pierre Judet de Lacombe parle de Tirésias, le devin sans limite, homme et femme, humain et animal, mort et vivant, voyant et aveugle.
Tirésias était de la ville de Thèbes, en Grèce. C'est là qu'il a officié comme devin. Il était de très bonne famille. Son ancêtre était l'un des Spartes, c'est-à-dire l'un des hommes directement issus de la terre de Thèbes, les Spartes ou hommes semés, sont nés des dents d'un dragon, un serpent, que le héros Cadmos avait planté dans un champ qu'il avait labouré. Des guerriers sont sortis de terre, ils se sont battus. 5 ont survécu, dont l'ancêtre de Tirésias. Ces survivants ont formé la noblesse de la ville de Thèbes, déjà une histoire de serpent. Tirésias grandit et se trouva errer dans les forêts de la région mythique et sauvage de l'Arcadie. Au pied d'une montagne, il voit 2 serpents, un mâle et une femelle, en train de s'accoupler. Pour une raison qu'on ne connaît pas, il les dérange avec son bâton. Le poète Hésiode raconte qu'il les blesse. La conséquence est énorme. Tirésias, d'un coup, devient femme. Puis un peu plus tard, il revoit les mêmes serpents, accomplit un geste identique et redevient homme.
Il y avait chez les Thébains un devin, Tirésias. Hésiode raconte qu'ayant vu près du mont Silène des serpents qui s'accouplaient et les ayant blessés, il fut changé d'homme en femme. Et qu'ayant vu de nouveau les mêmes serpents qui s'accouplaient, il redevint homme.
Parfois, on dit que Tirésias tua le serpent femelle et devint femme. Puis il retrouva plus tard le serpent mâle, il le tua et redevint homme. Parfois, on dit qu'avec son bâton, il sépara les deux animaux qui s'accouplaient et fut femme. Puis qu'il refit la même opération plus tard, 7 ans après, et fut à nouveau homme. C'est ce que raconte Ovide, le poète.
Il a connu les deux Vénus. En effet, dans une forêt verte, les corps de deux grands serpents accouplés, il les a séparés d'un coup de bâton. D'homme, il est fait incroyable, femme. Ainsi, il passe 7 automnes. Au 8e, il voit les mêmes serpents et...
S'il y a à vous frapper telle puissance que ça transforme en son contraire l'auteur du coup, je vais vous battre encore.
Il secoue les deux serpents, sa forme première lui est rendue et sa tête de naissance.
Le changement de sexe est chaque fois une punition. Avec son viril bâton, Tirésias a troublé une union amoureuse. Il ne peut plus être homme, puis recommençant son geste, sans son bâton on imagine, il ne peut plus être femme. Il connaît les deux sexes, mais séparément, contrairement au couple qu'il a disjoint. Il acquiert un savoir que nul autre mortel n'a pu acquérir, à quelques exceptions près. Mais de manière dissociée, il n'est pas androgyne, mais homme ou femme, pas les deux. C'est parce qu'il a cassé une union qu'il a eu droit aux deux sexes, l'un après l'autre. Il est devenu, comme on dit aujourd'hui, un homme augmenté, plein d'une expérience double, mais en tranche. Il ne connaîtra jamais l'unité des deux sexes. On ne sait absolument pas ce que Tirésias a fait pendant sa vie de femme, qui a duré 7 ans. On sait seulement qu'elle a été active. Tirésias a eu une vie amoureuse de femme avant de retrouver sa vie d'homme. Il peut comparer les plaisirs. Comme le dit Ovide, Tirésias a connu les deux Vénus. Or Zeus et Héra. Pendant un moment où les affaires du monde ne les troublaient pas trop, sont en dispute. Zeus, selon certains auteurs, aurait prétendu que la femme a plus de plaisir que l'homme dans l'amour. Héra ne veut pas l'admettre. Les deux dieux décident alors d'interroger Tirésias, qui saura répondre. Tirésias répond à la question. Zeus avait raison, selon le récit que donne Hésiode, mais pas de beaucoup.
Héra et Zeus, qui se disputaient pour savoir qui des femmes ou des hommes avait le plus de plaisir dans l'union amoureuse, interrogèrent Tirésias. Il dit que sur 19 parts de jouissance dans la relation amoureuse, les hommes en goûtaient 9 et les femmes 10.
Sur un total de 19 parts de plaisir, la femme en tiendrait 10 et l'homme 9. Selon une version plus probable d'un point de vue textuel, l'écart est énorme. Sur 10 parts, l'homme n'aurait droit qu'à une seule et la femme à 9. En tout cas, Héra est furieuse que le secret de la supériorité du plaisir féminin soit brisé. Par colère, elle rend Tirésias aveugle, lui qui avait vu les serpents au regard pénétrant. Zeus ne peut pas défaire ce qu'a fait son épouse. Pour consoler Tirésias, qui lui a donné raison, il lui offre la voyance. Il lui donne le regard aigu des serpents. Tirésias verra l'invisible et saura faire des prophéties. En plus, il lui donne à vivre une vie très longue. Le regard prophétique qui sait embrasser le temps dans toute sa longueur dure longtemps.
Pascal Quignard, écrivain.
Tirésias, convoqué par Zeus et par Héra, donne une réponse d'une complexité que vous avez vue, 9 plus 1 ou 9 moins 1. Il laisse entendre en fait le secret, comment dire, de ce qui sépare le coït de la reproduction, à savoir les 9 mois, qui serait donc le secret des femmes, qui serait supplémentaire au secret des hommes, qui ne serait que la secousse génitale. C'est très étrange. Mais le plus extraordinaire est la façon dont on peut évoquer Tirésias. C'est le seul qui ne rentre pas dans le fleuve Léthé, c'est le seul qui connaisse la vérité, Aletheia. C'est celui qui n'a pas traversé le fleuve Léthé. C'est le seul humain et c'est le seul divin qui connaissent la vérité.
Il y avait sur l'origine de la cécité de Tirésias, sur son don de voyant, une toute autre histoire, sans serpent, sans changement de sexe. C'est comme ça le mythe, ça bouge. Pour expliquer un fait que tout le monde connaissait, Tirésias est devenu aveugle et devint le même jour, on était libre d'inventer, de trouver une nouvelle version. Il fallait seulement que ce soit cohérent. Et puis on choisissait comme on voulait. L'accumulation de versions enrichissait le mythe. On pouvait garder les deux. Les deux versions se rejoignent très clairement. L'origine de l'aveuglement de Tirésias et de son don de prophétie est érotique. Pas l'amour entre deux serpents, mais une indiscrétion involontaire de Tirésias. Une histoire de regard qui finit mal. Cette histoire commence bien. La déesse Athéna, déesse guerrière redoutable, qui apparaissait souvent armée avec son casque, sa lance, son armure et ce vêtement d'horreur qui montrait la tête affreuse de la Gorgone, aimait aussi les joies simples de la vie entre amis-filles. Elle adorait fréquenter les forêts sauvages avec de jeunes nymphes et notamment avec la très belle Cariclo, qui était la mère du jeune adolescent Tirésias. Callimaque, poète du 3e siècle avant notre ère, nous parle de ses plaisirs, mais on sent que ça va mal tourner.
Athéna, autrefois dans le pays de Thèbes, aimait une nymphe, beaucoup et plus que toutes les autres compagnes. C'était Cariclo, la mère de Tirésias. Jamais elle n'était loin. Souvent, la déesse la faisait monter sur son char. Les tendres paroles entre nymphes, les invitations à la danse n'apportaient pas de plaisir si Cariclo ne les dirigeait pas. Mais tant de larmes l'attendaient encore, même elle, la compagne adorée d'Athéna.
Un jour, les deux amis se baignent, dévêtus, près d'une fontaine. La fontaine du cheval, sur la montagne de l'Hélicon. C'est un lieu fabuleux que fréquentent aussi les muses.
Un jour, elles avaient détaché les agrafes de leurs robes près des belles eaux de la fontaine du cheval sur la montagne Hélicon. Elles se baignaient. Le calme de midi tenait la montagne. Toutes les deux se baignaient. C'était midi. Un calme immense tenait cette montagne.
Midi, l'heure de tous les dangers. Le lieu est désert. Sauf que Tirésias, le fils de la nymphe Cariclo, rôdait par là avec ses chiens de chasse. Il a soif et s'approche de la fontaine. Alors, il voit Athéna se baignant, nue. La déesse en colère le punit cruellement. Le gamin a fauté avec ses yeux. Il ne verra plus.
Seul Tirésias, avec ses chiens, le manteau encore à peine assombri, parcourait le lieu sacré. Une soif indicible le mena à l'eau de la source. Misérable, il vit ce qu'il n'avait pas le droit de voir. En rage contre lui, Athéna, pourtant, lui parla.
Tu n'emporteras plus tes yeux avec toi. Qui, ô fils d'Eouérès, quel démon t'a mis sur ce chemin de malheur ?
Elle dit cela, et la nuit emporta les yeux de l'enfant. Il était arrêté, silencieux. La douleur collait ses genoux. Une impossibilité tenait sa voix. La nymphe cria.
« Qu'as-tu fait à mon fils, souveraine ? C'est cela votre amitié, déesse ? Tu as pris les yeux de mon petit. » Maudit enfant, tu as vu la poitrine et les flancs d'Athéna, mais tu ne verras plus le soleil. Ô mon malheur !
La mère Cariclo est désespérée. Elle accuse son amie Athéna. La déesse s'explique. Aucun mortel n'a le droit de voir une divinité, sauf si la divinité a voulu se faire voir de lui. Tirésias doit donc payer sa faute. Mais pour consoler Cariclo et pour consoler Tirésias, Athéna lui donne un bâton pour qu'il puisse marcher, et lui donne le don de prophétie. Il sera le meilleur devin du monde.
La mère prit dans son étreinte le fils chéri. Elle poussait la plainte du rossignol avec ses lourdes larmes. La déesse eut pitié de sa compagne. Athéna lui dit alors ces mots.
« Femme divine, rejette tout ce que tu as dit par colère. Ce n'est pas moi qui ai fait ton fils aveugle. Athéna n'éprouve aucune douceur à voler les yeux d'un enfant. » Mais c'est ce que disent les lois de Cronos. Qui contemple un immortel, si ce dieu ne l'a pas voulu lui-même, devra payer d'un grand prix ce qu'il a vu. Femme divine, on ne peut reprendre cela en arrière, car c'est le fil qu'ont filé les Moires le jour où il est né. Par amour de toi, je lui réserve beaucoup de privilèges. Je ferai de lui un devin qu'on chantera à l'avenir. Il sera nettement meilleur que tous les autres. il connaîtra les oiseaux, lequel est favorable, lequel a un vol infructueux, et ceux dont les ailes ne disent pas le bien. Il donnera une foule d'oracles aux gens de Béotie et à Cadmos, et ensuite au magnifique Labdacide. Je lui donnerai un grand bâton qui conduira ses pieds où il faut. Je lui donnerai beaucoup de temps jusqu'à sa fin de vie, et lui seul, après sa mort, aura sa raison quand il fréquentera les ombres. Le grand chef du peuple des enfers l'honorera.
Elle dit cela et elle baissa la tête. Tout s'accomplit quand Athéna s'incline, car à elle seule, parmi ses filles, Zeus donna d'avoir tous les pouvoirs de son père.
Françoise Héritier, anthropologue.
Ce qu'a vu Tirésias, c'est quelque chose de très particulier, me semble-t-il. C'est la nécessité où, à un certain moment, cette déesse vierge mais pubère se trouve obligée de se baigner. Parce que, et là, nous nous trouvons dans une situation qui est une situation qui ne peut pas être dite, comme elle ne peut pas être vue, sauf par les nymphes et par les femmes, elle est dans une situation féminine particulière qui est celle de la menstruation. Et ce que voit Tirésias, c'est vraiment de l'impensable, parce qu'il voit la Vierge impubère, et qui n'utilisera pas ses humeurs du corps, dans une situation qui est de l'ordre de l'impensable. Parce qu'elle ne deviendra jamais mère. Simplement, les dieux ont-ils des humeurs comme les autres? Les déesses mères, les déesses vierges, les nymphes sont-elles réglées comme le commun des mortels?
Pierre Judet de Lacombe raconte l'histoire du devin Tirésias, aveugle parce qu'il a vu ce qu'il ne devait pas voir.
Tirésias, qui a vu de ses yeux ce qu'il ne devait pas voir, verra l'invisible. Il a vu la beauté extraordinaire de la déesse Il a vu que sous son armure de guerrière farouche, elle avait, comme les autres déesses, comme les nymphes, un corps magnifique, désirable, d'autant plus beau qu'il était interdit. Athéna était comme les autres. Elle n'avait alors plus rien de l'Athéna, officielle, toujours vierge, figée, rigide et sévère dans sa splendeur. Il a vu ce qu'Athéna s'efforce tout le temps de cacher. Tirésias, le devin, saura voir sous les apparences, sous les rôles qu'on se donne dans la société. Il n'y a pas de serpent dans cette histoire, pas de changement de sexe, mais c'est bien le regard érotique qui décide de la transformation de Tirésias. Il n'est donc pas étonnant que pendant sa longue carrière de devin à Thèbes, il aura affaire, comme Athéna le lui prédit, aux affaires secrètes de la famille des Labdacides, c'est-à-dire la famille d'Œdipe. Cette famille a marqué l'histoire par ses secrets sexuels, ses transgressions, ses désastres dans les relations entre parents. Œdipe qui assassine son père et épouse sa mère Jocaste, ses fils qui s'entretuent. Tirésias a vu et a prévu ses malheurs. Pour finir, j'aimerais vous raconter une autre histoire de Tirésias. Elle est dingue. Elle a été proposée par un poète ancien, sans doute du début de notre ère, dans un poème appelé Tirésias. On y retrouve, dans une sorte de reprise exacerbée et frénétique, tout ce que nous avons raconté. C'est un tourbillon, un bouquet final. D'abord, Tirésias ne naît pas garçon, mais fille. Dès qu'elle a grandi, Apollon la convoite et lui fait du chantage.
Elle se promenait dans la montagne. Apollon la désira, et pour prix de ses faveurs, il lui enseigna la musique. Lorsqu'elle eut appris cet art, la jeune fille se refusa à Apollon. Aussi le dieu la changea-t-elle en homme, pour qu'elle éprouve Eros.
Éprouver Eros, éprouver du désir est en fait une punition. La jeune fille s'est refusée au dieu. Devenue homme, elle apprendra la frustration, car pensait-on souvent à cette époque, il n'y a de désir que masculin. C'est alors qu'elle est homme que Zeus et Héra l'interrogent sur le plaisir féminin et le plaisir masculin. Sa réponse déplaît à Héra. Tirésias redevient fille et épouse un homme très beau. Mais pour se venger d'elle, Héra fait qu'elle accouche d'un gamin qui louche, appelé Strabon, à cause de son strabisme. Héra continue sa vengeance et le transforme en un homme laid, comme un singe. Ce n'est pas fini.
Pris en pitié par Zeus, il fut de nouveau changé en femme mûre. Elle s'en alla à Trézène. Là, elle fut désirée par Glyphios, un homme du pays, qui s'attaqua à elle alors qu'elle était au bain. Mais celle-ci, surpassant en force le jeune homme, l'étouffa. Poséidon, dont Glyphios était le mignon, s'en remit aux moires pour qu'elle rende un jugement. Celles-ci le changèrent en Tirésias et lui enlevèrent son don divinatoire.
Mais qu'à cela ne tienne, Tirésias réapprend l'art des devins grâce à l'enseignement du centaure Chiron. Il est invité aux somptueuses noces de Thétis et de Pélée. Lors du repas de noces, Tirésias se fait haïr d'Aphrodite. Il a le rôle d'arbitre dans un concours de beauté, non pas entre Aphrodite, Athéna et Héra, comme dans la légende habituelle, mais entre Aphrodite et les trois grâces.
Là eut lieu un concours de beauté entre Aphrodite et les trois grâces, ayant pour nom Pasithéa, Calais et Euphrosyné. Pris pour juge, Tirésias décerna le prix de beauté à Calais, dont le nom veut dire « la belle ». Voilà pourquoi Aphrodite, blessée, le changea en femme, une vieille fileuse. Mais la belle Calais lui donna une belle chevelure et l'emmena en Crète.
En Crète, un homme dont le nom veut dire l'araignée, Arachnos, tombe amoureux de cette femme tisseuse de toile. Il couche avec elle, mais se vante d'avoir couché avec Aphrodite. La déesse n'est pas contente.
La déesse que la chose avait mise en colère changea Arachnos en belette et Tirésias en souris.
C'est comme ça qu'on explique, dit le poème, que les souris mangent peu, car elles sont issues d'une vieille femme. Mais c'est aussi comme ça qu'on explique le don divinatoire des souris, qui poussent des petits cris quand s'annonce une tempête ou qui s'enfuient quand la maison va s'écrouler. Les souris sont issues de Tirésias le devin. On peut tout faire avec un mythe. Que sont devenues les mamelles de Tirésias pendant son histoire de changement incessant? Elles veillent.
I, Tirésias, though blind, throbbing between two lives.
Le poète T.S. Eliot a donné une image saisissante du vieux devin qui fut homme et femme.
Old man with wrinkled female breast.
Moi, Tirésias, bien qu'aveugle, palpitant entre deux vies, vieil homme au sein froissé de femme, je peux voir. Moi qui à Thèbes me suis assis au pied des murs, qui ai marché parmi les plus bas de tous les morts.
Can see I who have sat by Thebes below the wall and walked among the lowest of the dead.
La semaine prochaine, nous entendrons Tirésias à l'œuvre comme devin, dans sa grande querelle avec le roi Œdipe. Tirésias, Œdipe, un choc de titans.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.